Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons reprendre nos exposés sur la doctrine sociale de l'Église, espérant que mes ennuis d'informatique vont se terminer, car je sais mal me servir de l'ordinateur. Bien, cela dit, avant de s'attaquer à la doctrine même, il est peut-être bon de réfléchir sur la nature humaine, puisque ça concerne l'homme en société. Déjà, Aristote avait dit que l'homme est un animal social, ce qui prouve l'importance de l'organisation de la vie sociale dans la réalisation de la vocation de chacun. L'organisation est aussi la nécessité d'une réponse adéquate à la question. Qu'est-ce que l'homme? Sur quelle base repose sa dignité? Quelle est sa vocation? Quelle est sa destinée? Etc. La base de la doctrine sociale de l'Église est évidemment l'éminente dignité de l'homme. La Bible enseigne que l'homme est créé à l'image de Dieu dans sa liberté, sa dignité, sa capacité d'aimer. Peut-être est-il intéressant de s'arrêter sur ce concept de liberté. Disons que l'homme accomplit sciemment et volontairement ce que l'animal accomplit par instinct ou par dressage. Prenons un exemple très simple, le boire et le manger. L'animal sait d'instinct ce qu'il peut boire et manger et combien, du moins tant que l'homme n'intervient pas pour modifier le cours de la nature. Au contraire, on sait très bien qu'il arrive à l'homme de trop manger, de trop boire ou de le faire mal. Quelqu'un avait défini l'homme comme un animal qui mange quand il n'a pas faim, qui boit quand il n'a pas soif et qui fait l'amour en toute saison. Dans une démarche spirituelle, toutefois, l'homme peut volontairement se priver totalement ou partiellement de ses fonctions ou choisir ce qu'il va boire, ce qu'il va manger, afin d'élever son âme et de se rapprocher d'un but spirituel. Toutes les religions connaissent et pratiquent le jeûne et l'abstinence. Ne citons qu'un exemple pris dans une population primitive particulièrement attachante, car elle est près des origines de l'homme, les Bochimans, qui ont un grand respect de la nature. Évidemment, il leur faut de temps en temps tuer un animal pour avoir de la viande, après une prière s'excusant auprès dans l'ensemble de l'esprit de ces animaux, ils vont à la chasse, mais celui qui a tué l'animal n'en mangera pas. Il ne mangera que la viande des animaux tués par un autre. Donc ce n'est pas seulement par instinct que l'homme mange et boit. Sa liberté consiste à mener sa vie en connaissance de cause. Les araignées font des toiles parfaites, provoquant l'admiration de tous les techniciens. Mais les araignées ne se trompent jamais, et aucune d'entre elles n'a eu l'idée de chercher une autre technique, fût-ce au prix d'essais malencontreux. La liberté est le don le plus précieux avec la capacité d'aimer, qui d'ailleurs se ressemble, c'est-à-dire de renoncer à soi pour se consacrer à autre chose. La liberté, dit-on avec raison, est de faire ce que l'on veut. Certes, encore faut-il savoir ce que l'on veut. On dit à un enfant, vous dit « je voudrais du chocolat ». On lui dit « tu vas être malade ». « Je veux du chocolat ». Eh bien, mange ce chocolat. Et 2 heures après, je suis malade, quelquefois avant 2 heures. Eh bien, tu l'as voulu. On raconte que Napoléon, le soir de la bataille d'Eylau, qui fit un horrible carnage, parcourut le champ de bataille à cheval et s'est écrié « je n'ai pas voulu cela ». C'était un petit peu tard. D'autant plus que la liberté dans le monde matériel est limitée par bien des choses. La liberté, on a la liberté d'aller dans la lune, personne ne vous l'interdit, mais vous n'en avez pas les moyens. Vous avez la liberté de sauter par-dessus une barrière de 6 mètres de haut, mais vous n'en avez pas les moyens. Vous avez la liberté de jouer les morceaux de piano ou de violon des virtuoses les plus compliqués, mais vous n'en aurez les moyens que si vous travaillez pendant des années plusieurs heures par jour. Autrement dit, la véritable liberté dans le domaine de la doctrine sociale consiste à commencer par se demander qu'est-il bon et raisonnable de vouloir. Car l'homme, finalement, vaut ce qu'il souhaite. Je me rappelle un brave homme, influent, que j'avais invité dans le cadre de ma profession à déjeuner, et qui, après s'être assuré que c'est la société qui couvrait les frais de l'invitation, m'a fait l'inviter dans un très grand restaurant et s'est commandé un repas assez copieux. Et au cours de ce repas, il m'a dit « Voyez, j'ai réussi ma vie. Je me fais maintenant inviter dans les meilleurs restaurants. Je mange ce que je veux, c'est parfait. Pauvre homme, certainement il n'y avait pas que ça dans sa vie, sinon il aurait valu de la nourriture. L'homme qui vit ou la femme qui ne vit que pour le plaisir, ben, vaut du plaisir. La femme finit par s'assimiler à une poupée gonflable. Si vous désirez de l'argent, ben, vous valez de l'argent. D'ailleurs, on le voit bien dans bien des personnes qui veulent de l'argent et qui finissent par se vendre pour en avoir davantage. Crésus était donc un homme comblé. Si vous aimez la gloire ou le pouvoir, vous valez de la gloire et du pouvoir. Néron a créé, pour sa propre gloire, un prix olympique de poésie qui est allé disputer. Naturellement, il y a eu la médaille d'or, il en était comblé. Néron a été comblé de ce qu'il voulait. Dans les plus hauts degrés, on n'est jamais comblé parce qu'on n'arrive pas au bout. C'est ainsi que Socrate et Aristote ont voulu la sagesse, mais ils sont arrivés petit à petit près de la sagesse. Ils n'ont jamais dit « je suis un sage ». Des artistes comme Rembrandt, Bach, Ravel, Fauré, Poulenc, Necel ont été au service de la beauté. Ils n'ont jamais prétendu avoir atteint la beauté, mais ils étaient au service de la beauté. Ils valaient donc de la beauté. Saint Vincent de Paul et Jeanne Jugand valaient de la charité. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse sont consacrés à l'amour de Dieu, l'amour du cantique des cantiques. Ils ont fini par valoir le Christ présent en eux. Alors évidemment c'est schématique parce que on pourrait faire remarquer que Saint Louis a eu le pouvoir en plus de la sainteté, Saint Thomas d'Aquin a eu la sagesse, etc. Mais c'est pour dire que la liberté a été donnée à l'homme pour se diriger de son propre élan, et non pas par instinct, pour se diriger de son propre élan vers le but qu'il s'est fixé, et il vaudra ce que vaut ce but final. Se conformer, le but final étant naturellement de se conformer au Christ lui-même dans la vocation qu'il a fixée à chacun, et avec les modalités, et avec les dons qu'il a donnés à chacun, les talents qu'il nous a donnés. La doctrine sociale de l'Église donc appelle le bien commun, le fait pour la société, de favoriser pour chacun l'accès à l'accomplissement de sa vocation finale. Une autre dimension à regarder, c'est la masculinité et la féminité. L'homme a été créé homme et femme. En effet, les anges créatures spirituelles ont été aussi créés à l'image de Dieu, libres et capables d'aimer, mais chaque ange reste seul de son espèce, car les anges ne sont pas féconds. Il leur manque la fécondité. C'est pourquoi Dieu a voulu créer un être lié à la matière, car la matière est divisible. Il a donc créé l'homme qui est lui capable de fécondité, de transmettre une vie qui lui a été donnée. Et le symbole de cette fécondité, c'est la femme. On comprend dès lors l'admiration des anges pour la Vierge Marie et l'implacable haine de Satan pour la femme. Satan fait tout pour salir, humilier et corrompre la femme qui lui rappelle ses limites. On saisit mieux l'amour, l'erreur, la monstruosité fondamentale, voire le ridicule du féminisme qui veut concurrencer l'homme sur le plan de facultés qui sont communes au masculin et au féminin, et en essayant de dégrader la spécificité féminine. Giraudoux l'avait bien pressenti dans sa délicieuse pièce intitulée « Intermezzo », consacrée aux jeunes filles. Il écrit pour une jeune fille qui accomplit son rôle de jeune fille « Lorsque arrive l'heure, lorsqu'arrive l'homme, la poitrine en avant pour recevoir des décorations. » Ce symbole souriant est tout à fait exact. La femme, dit-on, est gardienne de l'amour et gardienne de la vie. La poitrine féminine est un excellent résumé du rôle de la femme, la séduction et l'allaitement, c'est-à-dire la transmission et la protection de la vie. À l'homme, il reste le mérite d'assurer le cadre matériel, d'assurer la sécurité du foyer, en roulant des biceps naturellement, c'est la poitrine de l'homme, cela vaut bien quelques décorations. Mais hommes et femmes ont la même fondamentale, ont la même dignité fondamentale d'enfants de Dieu, dans des modalités différentes. Et je voudrais citer quelques exemples des papes les plus récents, Jean-Paul II, Léon XIII, Paul VI. Voilà ce que Jean-Paul II écrit dans son encyclique Familiaris Consortio. En créant l'être humain, homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une manière égale à l'homme et à la femme, en les enrichissant des droits inaliénables et des responsabilités propres à la personne humaine. Puis, Dieu manifeste la dignité de la femme de la façon la plus élevée possible, en assumant lui-même la chair de la Vierge Marie, que l'Église honore comme la mère de Dieu, en l'appelant la nouvelle Ève, en la proposant comme modèle de la femme rachetée. Cette égalité entre l'homme et la femme signifie pour la femme non pas le renoncement à sa féminité, ni l'imitation du caractère masculin, mais la plénitude de la véritable humanité féminine telle qu'elle doit s'imprimer dans cette manière, dans sa manière d'agir. Et Léon XIII avait déjà dit dans Rerum Novarum, cette dignité de l'homme que Dieu traite lui-même avec un grand respect, il n'est permis à personne de la violer impunément, ni d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection qui répond à la vie éternelle et céleste. Bien plus, il n'est même pas loisible à l'homme sous ce rapport de déroger spontanément à la dignité de sa nature ou de vouloir l'asservissement de son âme, car il ne s'agit pas de droits dont il est la libre disposition, mais de droits envers Dieu qu'il doit religieusement remplir. De devoirs envers Dieu, la traduction doit être mauvaise. Et enfin, Paul VI, dans Gaudium et Spes, dit « Tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques, tout ce qui offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport sans égard pour leur personnalité libre et responsable, toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes, tandis qu'elles correspondent à la civilisation. Elle déshonore ceux qui s'y livrent plus encore que ceux qui les subissent et incite gravement à l'honneur du Créateur. »